Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis très contente de vous partager cet épisode où j'accueille mon amie Julie, plus connue sous le nom de 12 février sur les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas encore Julie, c'est une femme incroyable qui, le 12 février 2013, a pris feu. Dans cet épisode, on aborde le sujet de la reconstruction après un accident, l'impact que celui-ci a eu sur la vie de Julie et comment réussir à exister au-delà du regard des autres. On parle aussi du pouvoir de la perspective et comment changer son point de vue et son état d'esprit peut nous aider à avancer au quotidien. Enfin, on parle aussi de la réalité de ce que c'est de se lancer et de travailler seul, les bons comme les mauvais côtés. Car même s'il est essentiel de faire un travail que l'on aime, il ne faut pas en oublier de vivre, en fait, tout simplement, parce que la vie est quand même une belle aventure et j'espère que cet épisode vous aidera à le réaliser et qu'on n'a pas à attendre de passer à côté de la mort pour s'en rendre compte et la vivre à fond. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Light & Free, qui souhaite mettre à l'honneur des personnes qui ont pris le pouvoir de leur vie et qui se sont affranchies des codes pour vivre de manière free, libre d'être eux-mêmes. Julie et moi soutenons à 100% ce message et ses valeurs, et c'est avec fierté qu'on les porte. Si le podcast vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts, ainsi que quelques mots dans les commentaires en me disant pourquoi vous appréciez l'écouter, ça me fait toujours très plaisir, et en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement et c'est avec plaisir que je vous propose de rejoindre notre conversation avec Julie.
Ça part, on est prête.
Let's go.
Coucou Julie.
Coucou.
Bienvenue sur InPower. Je suis super contente de te recevoir. C'est la première fois que tu viens chez moi à Paris en plus.
Trop bien.
Parce que bon, Julie va vous le dire, mais elle n'est pas de Paris, elle est de Nice. Donc elle a fait le déplacement presque juste pour ça. Mais bah en fait, oui, parce que j'imagine que si vous me suivez, ou si jamais vous suivez Julie sur Insta, vous avez sûrement vu le mouvement qu'on a lancé il y a 2 semaines maintenant. On veut du vrai. Pour vous partager vraiment plus d'authenticité et de transparence sur les réseaux, parce que toutes les deux, on est sur les réseaux et on se rend compte, enfin, que nous, on a toujours voulu l'utiliser pour faire le bien, enfin, tu vois, pour inspirer les gens.
Pour inspirer les gens, ouais, c'est ça.
Alors qu'il y a quand même un revers de la médaille qui est très difficile, vu que c'est quand même une plateforme avant tout centrée sur l'image et où le physique a beaucoup d'importance. Ouais. Et ce qui mène à des dérives du style retouche, editing, enfin, et un manque, on va dire, de spontanéité, d'authenticité qui fait pas du bien, quoi.
Un manque de vrai, quoi.
Un manque de vrai, bah, d'où le hashtag.
Ouais.
Du coup, écoute, est-ce que tu veux te présenter juste pour dire comment t'es qui tu es et comment tu te définirais, parce que c'est super dur, je trouve, de définir un peu ce qu'on fait.
Alors, pour présenter, du coup, je m'appelle Julie et je suis plus connue sous le pseudonyme, du coup, 12 février. Pourquoi 12 février ? C'est tout simplement la date de mon accident. Donc le 12 février 2013, ma vie a basculé littéralement en fumant une cigarette. Mon costume de carnaval a pris feu, j'étais au lycée et j'avais 16 ans. Suite à ça, j'ai fait 3 mois de coma artificiel, 3 mois d'hôpital de jour, 1 an de rééducation à peu près. Et j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui, notamment grâce au sport, grâce aux réseaux sociaux, que j'ai utilisé du coup à bon escient.
Ouais.
Pour d'abord savoir ce que les gens pensaient de mes cicatrices, parce que je voyais les regards en fait que je prenais dans la rue. Et plus je prenais de regards, plus j'avais envie de me cacher. Et moins je savais au final ce que les gens pensaient de mes cicatrices. Donc je me suis dit, vas-y, je vais partager sur les réseaux. J'ai fait le pari risqué de croire que les réseaux, ça pouvait avoir du bon, malgré tout ce qu'on disait. Et au final, j'ai eu raison de le faire. Et je pense que toi aussi, tu le sais aujourd'hui. Suite à ça, je me suis rendu compte qu'au lieu que les gens m'aident, la tendance s'est inversée. Et c'est moi qui ai aidé les gens grâce à mon histoire. Donc voilà, l'histoire 12 février, d'où c'est parti.
Ouais, c'est assez incroyable. Quand est-ce que tu as lancé ton compte ?
J'ai lancé... Ma première photo, c'était le 15 novembre 2015.
Ok,
voilà.
Donc en fait, limite, dès que t'es sortie de ta rééducation, quoi.
Bah, au final, j'ai quitté l'hôpital 6 mois après mon accident, à peu près, et puis j'ai laissé passer quelques années, et j'ai lancé mon compte,
ouais,
à foulée, quoi.
Est-ce que toi, j'essaie de me souvenir quand j'utilisais les réseaux en 2015, est-ce que toi, t'étais inspirée déjà par des personnes ? Comment est-ce que... C'était quoi ta relation aux réseaux sociaux avant ton accident ?
Ouais. En fait, si tu veux, j'étais à l'hôpital et j'ai cherché des gens qui partageaient leur histoire sur les réseaux.
Ouais.
Et j'ai été hyper déçue. Il n'y avait personne. Ouais. Justement, on était encore dans ce... Bah, les réseaux, déjà, c'était pas comme aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. On n'était pas encore dans l'époque blogueur, etc. C'était pas encore répandu. Par contre, il y avait déjà les youtubeurs. Donc, il y avait déjà Thibaut InShape, par exemple, qui partageait le sport, etc. Qui montrait comment on pouvait s'en sortir et qui partageait déjà des vidéos de transformation de gens qui s'en étaient sortis grâce au sport. Et il m'avait méga inspiré. Donc, on va dire que ma source d'inspiration à l'époque, c'était quand même Thibaut Bonne Shape et je m'étais dit, putain, si lui il peut parler autant sur les réseaux, peut-être que moi je... Mais c'était même pas en mode moi je peux faire la même chose parce que j'ai jamais eu dans l'idée de percer ou de quoi que ce soit, c'était juste peut-être que moi aussi je peux partager mon histoire et peut-être qu'un jour Thibaut il tombera dessus, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Merci Thibaut. Mais d'ailleurs c'est ce qui s'est passé et ouais, je cherchais des gens qui partageaient leur histoire et j'en trouvais pas quoi. Ouais. J'en trouvais pas. Donc ouais, il y avait Thibaut qui m'inspirait et aujourd'hui, je crois que déjà à l'époque il y avait Winnie Harlow, la mannequin ouais. qui a atteint de vitiligo du coup.
Ouais, voilà. Totalement, ok. Donc ouais, des personnalités qui des ont personnalités, utilisé ouais, les ça. Réseaux aussi pour...
Ouais,
pour
le réseau soi. Et leur différence en tout cas pour, ouais. pour y arriver.
Je me demande, tu vois, j'essaie de me dire, je sais pas comment les personnes qui nous écoutent ou comment moi j'aurais réagi si une telle chose m'était arrivée. Tu dirais, quel a été le plus difficile pour toi juste de passer d'une vie, comme tu dis, à une autre, à un âge où c'est où construit.
Ouais,
c'est
exactement. Alors déjà, je pourrais te répondre par rapport à ta première question que tu sais jamais. C'est Bob Marley qui dit ça, mais genre tu sais jamais à quel point t'es fort. Jusqu'où être fort, ça reste ta seule option. Mmh. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Je pense que si une de mes meilleures potes avait eu mon accident, je pense que je lui dirais la même chose que toi, tu me dis aujourd'hui, parce que ben on s'imagine pas brûlé, on s'imagine pas avec des cicatrices, mais tout comme je m'imagine pas tétraplégique ou amputé, par exemple. Tu vois. Mmh. Donc on sait jamais comment on réagit. Le plus dur pour moi, ça a été qu'à 16 ans, j'étais une gamine musclée, gymnaste, avec les cheveux longs, les yeux bleus, qui aimait plaire, qui avait plein de copains, plein de copines. Et du coup, je me suis pris une grosse gifle, en fait. Mm. Parce que déjà, on va dire que j'avais un peu la critique facile, tu sais, au lycée, genre la
ouais,
différence.
On est un peu des pestes.
On est un peu des pestes. Et j'étais un peu comme ça, parce que du coup, vu que moi, j'avais confiance en moi, si je peux dire, j'avais un peu ce rôle de la meuf, tu sais, qui rigolait un peu de tout le monde. Et je me suis pris vraiment une gifle, mais genre une vraie gifle. Et le plus dur pour moi, ça a été déjà la première fois que je me suis vue dans un miroir, tu vois. Quand je me suis vue chauve, brûlée, maigre, j'étais là en mode waouh. Enfin, ok. Genre, je me reconnaissais même pas. En fait, la femme, la fille que je voyais dans le miroir, c'était pas moi, c'était pas Julie.
Ouais.
Donc, c'est ça. Ça a été le plus dur, en fait. Le plus dur, ça a été l'acceptation de ce qui m'était arrivé et l'acceptation de ce changement physique flagrant, genre, qu'il y avait eu sur mon corps.
Ouais, voilà. Ouais, c'est. En fait, t'as raison, c'est un peu notre préoccupation à cet âge-là. Je me demande aussi, est-ce que tu t'es dit, je pourrais peut-être plus faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Tu vois, est-ce que ta perception de la vie de ce que tu pouvais accomplir a changé?
Ma première réflexion quand je me suis dans le miroir, ça a été. Déjà, ça te donne un état d'esprit, une vision sur mon état d'esprit que j'avais quand j'avais 16 ans, c'est ok, je pourrais plus jamais plaire. Le premier truc que je me suis dit, c'est ça. Et pire encore après, je voulais faire une école de commerce, tu vois. Je me disais, mais comment je vais rentrer, genre à l'EDEC, qui est une des plus grandes écoles de commerce à Nice, en étant brûlée. Comment je vais reprendre le sport? Comment je vais reprendre la gym? Je tenais même pas debout, je savais même plus manger, je savais même plus boire, je savais même plus parler à ce moment-là. Et je me disais, mais ok, je peux plus rien faire, genre ma vie, elle est foutue. Elle est foutue. Et encore une fois, le problème de tout ça, enfin de tout ce que j'ai pensé, venait du fait que la cause des grands brûlés n'était pas du tout médiatisée. Pour te dire, il y avait une asso qui était genre l'association des grands brûlés de France, mais qui est encore aujourd'hui inactive. Heureusement qu'il y a une autre association qui s'est créée par la suite, mais il n'y avait rien. J'avais l'impression d'être la seule brûlée du monde.
Ouais,
je tapais limite grand brûlée sur internet, il n'y avait rien, il y avait des coups de soleil, je pétais les plombs. Sur Getty Images, il n'y avait que des coups de soleil. Je tapais brûlure.
C'est affligeant.
Mais même, je tapais brûlure pour essayer de voir à quoi ça ressemblait, à quoi ça allait ressembler, à quoi mes cicatrices aspiraient à devenir, tu vois. Genre en mode, est-ce qu'elles vont devenir plus blanches, est-ce qu'elles vont s'aplatir? C'était des cicatrices qui étaient hyper rouges pour souffler. Je m'étais dit, mais merde! Je suis toute seule.
Ouais,
j'avais l'impression d'être seule.
Et c'est ça venait du fait isolée,
que... Mais ça venait du fait, encore une fois, meuf, on veut du vrai. On en vient en fait que quand tu allumes ta télé, quand tu regardes des journaux, des magazines, c'est toujours la meuf parfaite, photoshopée, etc. Sans cicatrices, sans rien. Et moi, j'étais là en mode, waouh. Au final, quand j'avais 16 ans, j'arrivais à m'identifier aux meufs de la télé. Mais après mon accident, j'étais là en mode, j'étais perdue, j'étais seule au monde.
Voilà, ouais, ouais.
C'est ça.
Et alors, comment est-ce que t'as remonté la pente? Comment ça s'est fait progressivement? Et quand est-ce que c'est devenu en fait limite une force? Parce qu'aujourd'hui c'est grave devenu une force.
Je te dirais très honnêtement les réseaux, en vrai. Les réseaux, ouais. Moi ça a été ma force quoi. Ça a été ma force quand j'ai commencé à en parler, quand Thibaut, le youtubeur, du coup, a partagé mon histoire, que j'ai commencé à prendre 2000, 3000 abonnés. J'étais là en mode waouh, c'est abusé. En 2016, je me suis fait réopérer, du coup, ça fait un gros buzz parce qu'en fait, les gens qui me suivaient étaient hyper attendris à l'idée que je puisse retourner encore à l'hôpital pour me faire réopérer. C'était une opération au niveau du cou pour une question de motricité et aussi esthétique, tu vois, qui au final a foiré.
Ah ouais?
Yes, je te jure. Mais, et en fait, les gens se sont sentis hyper touchés, tu vois, et du coup ils se sont abonnés encore plus, et ça faisait des buzz de fou. Je passais de 10 000 à 16 000 à 20 000 abonnés, et ça montait comme ça, et je me disais waouh. Et suite à ça, il y a eu la télé qui m'a appelée, et j'ai commencé à faire des interviews, et en fait plus mon compte grandissait, mais c'était même pas une question d'abonnés, c'est en fait plus les gens étaient inspirés par mon histoire, mon combat, plus j'avais de messages en mode vas-y, continue, plus j'avais envie de le faire. Ouais. Et au final, ce qui s'est passé, donc il y a eu plein de choses. Il y a eu un de mes ex qui m'a énormément aidé, qui m'a dit vas-y, faut que tu mettes des shorts, des t-shirts, des robes, accepte-toi, tu vois. Il m'a vraiment tendu la main, il m'a dit meuf, ces cicatrices, c'est tes marques de vie, c'est ton histoire, tu peux pas les renier, etc. Donc il y a eu plusieurs choses, ma famille qui m'a hyper entourée, etc. Mais les réseaux, ça a été vraiment flagrant, parce que au final, plus j'étais, si je peux dire, connue sur les réseaux, plus quand on me regardait dans la rue, je me disais mais à tout moment, ça peut être un phénix, comme je les appelle, tu vois. Et à tout moment, on me regarde parce qu'on m'a reconnue ou parce qu'on m'a vue à la télé. Et d'avoir juste cette arrière-pensée-là, et que j'ai encore aujourd'hui, quand on me regarde, que je suis en t-shirt ou en short, et qu'on me regarde, je me dis ouais, t'inquiète, autant il t'a vu à la télé il y a une semaine, et du coup, ça va être grave avant ça, tu vois, ouais, c'est con. Mais ouais. Voilà.
Mais c'est incroyable ce que tu me dis, c'est quelque chose que j'ai lu dans plusieurs livres et que j'aimerais trop réussir à hacker, entre guillemets.
Ouais.
C'est le fait que tout est une question de perspective et d'état d'esprit dans la vie.
Exactement.
C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est exactement le même fait. C'est une personne qui te regarde dans la rue.
Ça.
Et si t'as un état d'esprit, pas confiance en toi, tu vois, très replié sur toi-même, tu as l'impression, tu le vis hyper mal et t'as l'impression qu'il fait que regarder tes cicatrices.
Yes.
Et quand ce changement d'état d'esprit s'opère, c'est limite une fierté. Ouais. Oh, bah, c'était un phénix.
En fait, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos YouTube, c'était comment accepter le regard des gens. Et je disais à un moment qu'en fait, le plus important dans le regard des gens, c'est le regard d'abord que tu te portes sur toi-même. Mm. C'est sûr que si t'as une image négative, je vais te donner un exemple concret, tu vois. Mais genre, moi, je me suis couverte pendant 4 ans de ma vie. Donc, c'est-à-dire pendant 4 ans, j'ai camouflé mes cicatrices. Avec des écharpes, avec du maquillage, avec des manches longues, avec des jeans, avec tout ce que tu veux, on ne voyait pas mes cicatrices, tu vois. À base de make-up forever, à balle, genre pour tout camoufler et tout. Et au final, quand on percevait un bout de mes cicatrices, déjà, un, je baissais la tête, et deux, ça intriguait encore plus, parce qu'en plein été, quand j'étais couverte avec une écharpe, les gens étaient là, mais oh, elle a pété un plomb, genre, pourquoi elle est couverte comme ça, il fait 39 degrés, genre, à Nice en plus, tu vois, j'habite sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Monaco, truc hyper luxueux, enfin, laisse tomber, tu vois.
Ouais.
Et ça attisait encore plus le regard. Et plus on me regardait, plus je baissais la tête, plus les regards étaient insistants, plus je me refermais. Et quand j'ai commencé à me découvrir, j'ai commencé à m'accepter. Et quand les gens me regardaient, je me disais c'était des phénix. Donc je relevais la tête et j'étais là en mode full sourire et tout. Et les regards, je te jure que c'était pas les mêmes.
Ouais.
Et au final, le plus important, c'est ce que je te disais, c'est l'image que t'as toi-même d'abord.
Ouais.
C'est ça.
C'est tellement ça. Mmh. Si t'es ok avec toi-même, t'es ok avec le regard des
Exactement.
Autres.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Tu peux pas accepter le regard de quelqu'un si le regard que tu te portes sur toi-même, il est dégueulasse. Genre littéralement, tu vois. Mmh. Si toi, tu te renfermes sur ta propre image, ça marche pas. Ça peut pas marcher.
Ouais. Voilà.
Et c'est exactement ce que moi j'ai vécu, et j'ai appris aussi par la suite que déjà, tu peux pas interpréter le regard de quelqu'un que tu connais pas. Ça m'a beaucoup aidé aussi, tu vois.
Ouais.
Moi, je me suis pris une grosse gifle, je l'ai raconté dans plusieurs interviews. Table d'un restaurant, le mec qui me regarde pendant une demi-heure, mais genre vraiment insistant, genre du coup, toi, tu vois le regard, tu vois, mais genre vraiment, il insistait, il regardait toutes mes cicatrices et tout. À un moment, je me lève, et je vais le voir, je pète un plomb, tu vois. Je dis, bon, si vous avez une question à me poser, posez-la moi, mais ça fait genre une demi-heure que vous me regardez, et genre, je sais que je suis une grande brûlée, je sais ce qui m'est arrivé et tout, je sais que j'ai des cicatrices, je sais que vous avez pas l'habitude de les voir, mais là, c'est vraiment relou, tu vois.
Ouais.
Et il me regarde, il me fait waouh. Et tu sais, genre, il a eu ce truc en mode, il a reconnecté avec la réalité. Et il me fait waouh, je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai ma nièce qui a eu un accident à propos du feu et tout. Elle est actuellement dans le coma et je me demandais si quand elle allait se réveiller, elle allait être aussi jolie que vous avec sa cicatrice, tu vois. Et là, je me suis pris la gifle de ma vie. Et je me suis dit waouh, ok. Autant que quelqu'un va te regarder dans la rue parce qu'il te trouve belle, autant que quelqu'un va te regarder dans la rue parce que bah, il aime bien ton style vestimentaire, ou peut-être pas, peut-être qu'il trouve que t'es habillée d'une façon totalement dégueulasse, mais on s'en tape.
Ouais,
parce qu'encore une fois, si toi tu penses qu'il pense quelque chose, bah t'arrives à avancer, tu vois.
Mmh.
Voilà, ça dépend que de toi.
Ouais, ça dépend que de toi. Et aussi de l'importance que tu accordes à ce regard, parce que.
Exactement.
Enfin, vraiment, aujourd'hui. Je suis capable de dire, moi, personnellement, que je m'en fiche totalement sur dans la rue, tu vois.
Carrément.
C'est parce que j'ai d'autres choses plus importantes auxquelles penser. Et ça, je pense que c'est important aussi qu'on en parle sur On veut du vrai. Et c'est pour ça qu'on va... Enfin, si vous suivez le compte Instagram, on partage des histoires inspirantes, mais on va aussi partager des mots, des histoires. Parce que, en fait, je trouve qu'aussi, ce qu'on a envie de faire, tu vois, avec On veut du vrai, c'est que sur les réseaux, ne plus donner la prédominance au physique.
Exactement.
Mais parce qu'on est tellement plus que son physique, et je trouve ça assez horrible, et d'ailleurs c'est le sujet de mon post d'hier, tu vois, c'est que la femme de tout temps a été réduite à son apparence. Tu vois, et en fait, c'est si jamais nous on change pas ce dogme, il changera jamais.
Mais il changera jamais, mais aujourd'hui, quand tu veux parler, bah justement, de on veut du vrai, pourquoi autant de femmes s'identifient directement et pourquoi, d'un autre côté, ça dérange autant. Pourquoi, quand tu balances des vidéos sur YouTube, c'est démonétisé selon le sujet que tu traites, enfin, les choses desquelles on parle, oui, ça dérange de ouf. Ça dérange de ouf parce que, déjà, les femmes qui ont ouvert leur bouche, si je peux dire, par rapport à ça, elles sont rares. Heureusement, de plus en plus courantes aujourd'hui. Mais on est encore super rare à faire ça.
Ouais.
Moi, je suis désolée, mais quand je me trimballe encore sur Insta... D'ailleurs, j'ai réduit un peu mon nombre d'abonnés, là, parce que j'en pouvais plus.
D'abonnement.
D'abonnement, ouais, pas d'abonnés, ouais, d'abonnement, parce que genre, j'en pouvais plus. Mais je suivais des blogueuses et des nanas qui prennent un truc qui est totalement faux. Mmh. Et j'étais là en mode, non,
ouais.
J'en peux plus, quoi. Et je me suis désabonnée de certaines personnes parce que j'étais arrivée à un stade où je me disais, non, mais c'est pas possible. Jus, tu peux pas prôner genre ta différence, tu peux pas prôner des messages comme on veut du vrai, tu peux pas être abonné à des meufs comme Louise ou à des meufs comme, je sais pas, comme tellement de meufs qui portent des messages de ouf, tu vois, comme la mannequin Winnie Harlow, etc. Et tu peux pas suivre des nanas qui prônent du fake à côté, quoi.
Ça, ouais, c'est pas mais marché. J'ai eu la même réalisation et je me dis, putain, si même nous suivons encore, enfin, on suivait encore ce genre de nanas, alors qu'on est à ce stade-là où on est quand même assez bien dans notre peau et tout, imagine pour toutes les autres personnes qui n'en sont pas du tout à ce stade. Et en fait, c'est pour ça que je sais plus avec qui j'en ai parlé récemment, j'ai l'impression de me répéter, mais on a tous un peu le choix de faire des réseaux sociaux ce qu'on veut. On a encore le choix de à qui on s'abonne. Donc n'hésitez pas à utiliser ce bouton-là, unfollow, tu vois. Si jamais les personnes ne vous font pas sentir mieux, quel est l'intérêt fondamentalement, tu vois ?
Bah, tu vois, pour moi, on nous appelle des influenceurs, tu vois. Moi, ce terme il me dérange un petit peu, mais pourquoi pas?
T'inquiète, sur mon podcast on a lancé le terme inspiratrice.
Ah, c'est bien, voilà, c'est beaucoup mieux. Mais bon, prenons inspiratrice, tu vois. Mais une blogueuse, enfin, en fait, moi c'est ce que je disais, tu vois. Il y a pas longtemps, je parlais avec une amie d'ailleurs qui est blogueuse. Et elle me disait, jus et tout, j'ai vu tes stats, enfin tes statistiques, du coup elles sont incroyables, ton nombre de likes et tout. Oui, parce qu'il faut savoir qu'entre blogueuse, entre influenceur, entre inspiratrice, on parle quand même de statistiques et on voit comment vous réagissez à nos posts. Et elle me disait, je comprends pas, enfin tes statistiques, elles sont ouf. Et moi, je perds de jour en jour en abonnés. Et ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, mais meuf, ton compte, il est super. Ton feed, il est incroyable. Tes photos, elles sont trop, trop jolies. Je suis d'accord avec toi, et t'es une bête de meuf, genre, vraiment, elle est adorable. Et je lui ai dit, genre, t'es magnifique et tout, donc ok. Mais qui s'identifie à toi quand tu mets en avant ton dernier sac Dior à 1 200 €? Qui arrive déjà à s'identifier? Qui arrive à s'identifier à toi quand sur tes photos, t'as la peau lisse, parfaite? Genre que t'as retouché, que t'as mis du temps à retoucher, je suis d'accord avec toi. Ce qui fait de ta photo une jolie photo, mais qui arrive à s'identifier? La petite nana comme moi, à 16 ans, qui vient s'abonner à toi, bah tu lui crées un complexe en fait. Tu vois? Et j'en parle avec elle. Et du coup, elle a tilté, elle s'est dit, ouais, putain, ouais, ok, je vois.
Ouais, je suis totalement d'accord. De toute façon, je trouve qu'il y a une responsabilité... et c'est pour ça que c'est cool si on ouvre le mouvement à d'autres inspiratrices, c'est qu'il y a une responsabilité, nous, en tant que créateurs et créatrices de contenu, à proposer justement un contenu bienveillant, parce que c'est nous, aujourd'hui, qui donnons un peu le là, tu vois. C'est ça. Donc, si c'est à nous, comme tu dis, auxquels les personnes s'identifient, ben donnons-leur du vrai. Parce que enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire, franchement, de te réveiller chaque matin et de savoir que tu crées des complexes chez les gens.
Mais encore une fois, je vais te dire un truc, les meufs les plus malheureuses, c'est celles qui vivent aujourd'hui de leur image et uniquement de leur image. Parce qu'au final, t'es dans une recherche de perfection, genre ben, au final que sont genre les dictats de la société, tu vois. Mais t'es dans cette recherche de perfection, genre de ventre plat, de fesses bombées, de grosses poitrines, de dents blanches, de nez un petit peu en trompette et de machin, des pommettes qui ressortent. Mais en fait, t'en as jamais fini. T'en as jamais fini avec la retouche, t'en as jamais fini avec la chirurgie. Et au final, quand tu te regardes dans le miroir, les photos que tu retouches à côté, tu te dis merde, ça va pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Et au final, t'es jamais dans l'acceptation. Et si t'es jamais dans l'acceptation, tu peux pas prôner aux autres de s'accepter, tu vois.
Totalement, ça sonne fou. Mais j'en parlais justement, moi, avec une amie avec qui on allait s'entraîner, Lucie des LEJ. Et tu vois, elle est super bien foutue dans les standards qu'on connaît, tu vois. Je veux dire, elle est vraiment, vraiment fine. Elle est très musclée, très, très, très sèche. Et écoute, elle me dit qu'elle ne voyait pas se voir à la caméra. Parce que tu sais, elle est chanteuse, du coup, elle fait des clips et tout. Et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est assez dingue. C'est les personnes qui, entre guillemets, correspondent le plus aux standards qu'on vend, qui sont le moins bien dans leur peau.
Exactement.
Et je connais plein d'autres filles beaucoup plus rondes, mais qui genre, s'en foutent complètement, et en fait, sont hyper heureuses. Et en fait, c'est genre tellement la preuve que le bonheur se trouve pas dans le physique, mais en fait, t'es, en tout cas, à l'adolescence, t'es limite persuadée que ça. Moi, je me souviens, je te jure, je crois être de mes... Ça, heureusement, je me dis, ça a pas duré longtemps, parce qu'il y a encore des femmes chez qui ça dure, tu vois, adultes et tout. Moi, je dirais que de mes 13... à 16-17 ans, tu vois, bien 3-4 ans, tous les jours, ce qui m'importait, c'était d'être jolie. Genre, ok, j'ai toujours été assez académique, donc genre, ça m'intéressait aussi les cours et tout, mais je me souviens que la... Que mes plus gros bads, c'était par rapport à mon physique. Tu vois, mes plus gros downs, c'était... toutes mes meilleures potes étaient magnifiques, genre limite mannequin. Donc j'avais l'impression d'être la plus moche de mes copines. C'était de voir mon petit ventre et de pas réussir à comprendre pourquoi il mincit pas. C'était d'essayer de me maquiller pour paraître plus ceci, plus ça. Mm-hmm. Et genre, c'est vraiment... quand j'ai commencé à essayer de m'en foutre, et c'est marrant, moi aussi, pour moi, le sport, ça a été une thérapie, donc là-dessus, on a eu un peu le même parcours, où tu vois, on a essayé de s'accomplir à travers autre chose, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on commence toujours un peu pour le physique, pour le sport, tu vois. Mais tu finis tellement juste pour tout ce que ça t'apporte en termes humains et tu vois, d'accomplissement, tu vois, qu'au final, j'ai jamais été plus heureuse que quand j'ai commencé à m'en foutre.
C'est ça.
Et on a grave divagué, c'est fou.
Ouais, on parle
j'adore. Mais attends, voilà, j'ai retrouvé un truc que je voulais te demander, c'est du coup, est-ce que t'as quand même pu reprendre une scolarité normale et faire des études supérieures, ou est-ce que ça a changé quand même tes plans?
Alors, du coup, j'ai eu mon accident, j'étais en première. Donc du coup, au final, je t'ai dit, j'ai passé 6 mois à l'hôpital, donc de février à juillet 2013.
Ouais.
Donc en septembre 2013, je suis retournée au lycée. Donc au final, j'avais été absente X temps de cours, mais je suis revenue comme
t'es revenue dans la classe d'après?
Ouais, non. Si, comme tout le monde. Genre,
ah oui, t'as même pas redoublé
Ok. Genre, tu sais, pour être avec mes potes et tout. Donc évidemment, j'ai raté mon bac. Parce
tu peux pas faire comme si rater cette mois de cours.
Ouais, j'avais raté trop de cours. Et puis en plus de ça, j'avais eu genre l'opportunité, si tu veux, de choisir ma classe.
Ouais.
Parce que tu sais, pour que je me sente bien et tout, laisse tomber, j'ai pris tous mes potes, j'ai fait allez les gars, genre, prends ma classe. J'ai créé une classe. C'est un carnage. Genre, il y avait des gens, genre, je suis arrivée dans la liste avant la rentrée, j'ai fait non, elle, je la veux pas, non, lui, c'est bon, oublié. Et j'ai remis mes potes dedans, c'était n'importe quoi, genre vraiment. Et donc, du coup, j'ai raté mon bac, je l'ai repassé l'année d'après, je l'ai eu, et en fait, je suis partie en fac de sport derrière. Mais j'ai fait preuve, enfin on a fait preuve à mon égard du coup de beaucoup de discrimination, parce que genre une grande brûlée qui se pointe en fac de sport, bah ça le fait pas, tu vois.
Franchement, c'est triste, genre j'aime le sport justement pour les valeurs
que
ça promeut, et en fait l'envers du décor est pas si rose.
Bah ça dépend en fait encore une fois du mec que t'as en face de toi qui va te noter, ça dépend encore, enfin ça dépend des personnes encore une fois, et c'est les personnes que tu peux rencontrer sur les réseaux, les personnes que tu peux rencontrer dans la rue aussi, qui sont plus dans le jugement que d'autres, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai fait preuve, justement, de cette discrimination-là. Et je me suis dit, ok, c'est juste... Tu sais quoi, ça se passe pas pour rien, c'est juste pas pour moi. Après ça, je suis partie en saison de ski. Et j'ai kiffé le milieu, parce que là, t'es vraiment dans un milieu où tout le monde échange, tout le monde s'accepte, et c'est super cool, tu vois. Donc voilà, j'ai fait 4 ans de saison, et puis après, bah, Instagram et les réseaux, tu vois.
D'accord, voilà. Donc t'étais partie pour travailler, monitrice de ski, prof de ski
Remontée mécanique, j'étais, tu sais, sur les appareillages et tout, et j'étais partie pour faire ça, et puis au final, Instagram, ça s'était lancé, et...
Et t'as rapidement pu vivre des réseaux?
Non, enfin, c'est au final, moi, c'est super récent, les réseaux, ça date quoi? Ça date d'un an, je te dirais.
Ah, ça fait un an, c'est bon?
Enfin... Au final, quand j'ai vraiment commencé... Oui, j'avais mes petits salaires par-ci, par-là, mais vraiment commencé à en vivre, non, quoi. Enfin, un an et demi maintenant, peut-être, mais c'est hyper récent, et je me suis pas rendu compte, dès le début, du poids que je pouvais avoir, comme toi, j'imagine, en tant que porte-parole, en tant que représentatrice d'une marque, etc. Moi, je me rendais pas compte au début, j'étais un peu naïve, tu vois.
Ouais.
Toi aussi, j'imagine.
Ouais, bah, coup, surtout que j'ai pas du tout business, moi, comme nana, à la base. Donc,
moi, j'étais là en mode hyper... je comprenais pas trop.
Ouais.
Pas trop ce qui m'arrivait.
Ouais.
Et j'avais dans l'idée aussi de faire coach sportif, tu vois, et puis ça m'est sorti de la tête pour l'instant, tu vois. On verra, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, mais pour l'instant, c'est...
Ouais.
C'est les valeurs que je partage sur les réseaux qui me font vibrer, tu vois.
Donc, est-ce que tu te poses parfois la question d'où tu te vois dans 10 ans?
Ouais, bah tu sais quoi, j'y ai pensé tout à l'heure, j'étais dans l'avion. Et j'étais là en mode, putain, où je me vois dans 10 ans, tu vois. Et au moment où je me posais cette question dans l'avion, je sors de l'avion, je rentre dans mon petit Uber pour venir chez toi, tu sais. C'était là tout à l'heure, tu vois, c'est ouf. Et là, je vois un mail, genre invité en tant que speaker sur les TEDx. Les plus grosses conférences qui puissent exister, les conférences de dingue, et je me dis waouh, tu vois. Et
t'as la réponse à ta question.
Ouais, et au final, tu vois, genre moi je m'étais toujours dit, en fait, ce que je veux, c'est. Aujourd'hui, je sais que je veux inspirer les gens, tu vois, et je veux aider les gens. Encore plus que les inspirer, je veux les tirer vers le haut, et par des hashtags, on veut du vrai, par les messages que je peux passer, par les textes que je peux écrire, tu vois, ou par tout simplement ce que je montre, en fait, ce que je montre de moi et ce que je suis, en fait, parce que ce que je montre sur les réseaux, c'est ce que je suis, ni plus ni moins, et vu que tu m'en fais de toi, tu le sais, tu vois. Mais ouais, je sais que c'est ça que je veux faire. Et là, quand je me suis dit, putain, t'es invité à cette conférence, c'est ouf. Genre, on t'invite à parler de ton histoire sur un truc qui est mondialement connu au final, Et là, je me dis, ok, c'est une consécration. Moi, dans 10 ans, je sais pas où je me vois concrètement, parce que c'est, les réseaux, c'est instable, et on sait, demain, ça peut s'arrêter. Mais je sais que je serais dans le social, tu vois.
Ouais.
J'aiderais les gens, c'est sûr. Je sais pas exactement te dire où je me vois, parce que tu sais que dans ce milieu, on crée des contacts de ouf. Tu vois, je t'ai dit, j'ai les contacts de Dove, par exemple, et j'aimerais trop travailler pour Dove, parce que Dove, c'est une marque qui prône la diversité de ouf. Et je me dis, putain, si demain je suis aux côtés de Dove pour taffer, 1000 fois j'y vais, tu vois.
Ouais.
1000 fois. Mais je sais pas où je serai, tu vois. Autant je suis aux côtés d'Yves Rocher aussi, j'en sais rien. Regarde, on a travaillé ensemble pour Yves Rocher.
Ouais.
Tu sais pas où tu finiras.
Ouais.
Tu sais, toi, ce que tu voudrais faire?
Bah, en fait, et tu me diras toi aussi comment ça a évolué, parce que je pense que ça a aussi évolué par rapport à avant ton accident. Les auditeurs et les éditrices d'InPower savent a priori maintenant que moi à la base je voulais être journaliste. C'est pour ça que j'ai fait Sciences Po, genre vraiment c'était d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être journaliste. Et les réseaux sociaux m'ont aussi emmené un peu ailleurs. Mais en fait, et notamment grâce au podcast, je retrouve cet amour que j'ai pour le journalisme, tu vois. Parce que même si j'adore les opportunités que les réseaux sociaux présentent, au bout de... moi, j'ai lancé mon compte fin 2016.
Ouais.
Au bout d'un an où je parlais aussi à la base beaucoup de sport, de bien-être et tout, je me suis sentie un peu enfermée parce que je ne me voyais pas parler de ça toute ma vie, tu vois.
Aussi. Mais moi, j'ai commencé par le fitness.
Hein, ouais, mais moi aussi. Parce que c'était ma passion à la base et que c'était un milieu qui était très présent sur Insta, tu vois.
Avant, c'était...
Bah, ça y est encore, c'est juste que nous, c'est plus trop ce qu'on suit.
Ouais,
moi, je suis beaucoup moins abonnée à des figures, entre guillemets, maintenant que des inspiratrices.
Moi aussi, mais c'était vraiment dominant.
Et du coup, en fait, je me suis juste écoutée, tu vois. J'ai juste diversifié mon contenu, j'ai lancé YouTube, j'ai lancé le podcast. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai l'impression de faire du journalisme 2.0. Moi, je sais juste que ce que j'adore, c'est créer. Moi, j'adore créer des projets, inspirer les gens aussi. Et en soi, je suis et je serai toujours en avis entrepreneur. Créer mes propres projets, c'est ce qui me porte, donner vie à mes idées.
Moi,
c'est ce qui me porte.
Je me suis redécouvert en étant entrepreneur, tu vois.
Ouais, c'est clair.
La vie, tu vois, être ton propre patron, de décider de ce que tu fais, ce que tu fais pas, créer ton contenu, ça laisse une liberté de fou, tu vois. Tu dépends de personne, ça dépend que de toi. Au final, oui, de tes auditeurs et des gens qui te suivent, mais genre, encore une fois, c'est toi qui choisis de proposer, tu vois. C'est toi qui choisis de créer ce que t'as envie de créer, et ça, c'est ouf.
Ça, c'est
mais, au final, moi, je me retrouve vachement dans ce que je voulais faire. Je t'ai dit qu'avant mon accident, je voulais faire une école de commerce. Tu sais que les réseaux, c'est du commerce, c'est du business, au final.
Oui, c'est sûr.
T'as ce côté business où tu dis, ok, je vais créer ce contenu-là, je vais faire ça, je vais parler de ça. Et au final, tu t'organises, tu fais ton petit truc. Au final, t'as vraiment cette allure de businesswoman que moi, je voulais quand j'étais plus jeune, tu vois.
Ouais, c'était ça auquel t'aspirais avant. Ouais. C'était devenir un peu businesswoman.
Ouais, tu vois, dans le commerce, faire un peu du marketing, etc. Au final, là, quand je me retrouve à faire ma compta, que je déteste faire d'ailleurs, je me dis, putain, au final.
C'est affligeant, j'ai encore les rappels de l'URSSAF.
Je te jure, tous les mois. Je pourrais t'aider si tu veux.
Merci.
Ah, putain, je te jure.
Ah ouais, non, mais parce que c'est ça aussi, il faut parler des revers. Parce que,
non, mais oui,
en soi, tu vois, quand on parle du fait d'être indépendante, c'est toujours à chaque fois le beau, mais c'est dur, les gars, de travailler seul. Enfin, surtout, comme tu dis, même si on est épaulé par des agents, etc., on est quand même seul, by ourselves. Et voilà, moi, la finance, je suis allergique, tu vois.
Donc, seul, hein. Enfin, au final, tu vois, on est là, on apprend. Enfin, moi, j'ai fait mes erreurs de comptage, j'en ai encore fait une il y a pas longtemps. Genre, j'étais là, on m'a dit, ah putain, comment je vais faire? J'étais en panique. C'est super dur, mais au final, je sais pas, ça te forge.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est beau, je trouve. Mais en soi, même toutes les personnes qui nous écoutent maintenant peuvent le faire aussi. C'est que on peut se former à n'importe quel métier. Tu vois, là, on s'est formé à beaucoup de choses, que ce soit au niveau vidéo, audio, photo, texte. Enfin, mais en soi, aujourd'hui, et ça, j'en ai parlé aussi plusieurs fois sur le podcast, mais les diplômes ne veulent plus dire grand chose. Tu vois, c'est très bien si des gens sont intéressés par un sujet, d'aller l'approfondir, mais ne vous sentez jamais limité parce que vous n'avez pas un diplôme dans tel ou tel domaine. Vraiment.
Tu vois, au final, moi je t'ai dit, j'ai eu que mon bac.
Ouais.
Moi j'ai eu que mon bac et genre ça m'a pas empêché au final de savoir parler, j'ai envie de te dire, de savoir inspirer, de savoir aider, de savoir créer du contenu, de savoir où je veux aller tout simplement, tu vois.
Est-ce que tu t'es un peu, on va dire, formée seule dans le sens, est-ce que t'as, je sais pas, lu des livres, regardé des vidéos ou suivi des parcours de personnes qui t'ont aidée?
Je te dirais que, genre, je me suis vraiment, vraiment formée seule, dans le sens où, à la base, j'ai appris de personne. Genre, je lisais pas. Genre, les films que je regardais, c'était pas des trucs qui m'inspiraient. Les personnes qui m'entouraient, enfin oui, évidemment, il y avait ma famille, etc. Mais c'était pas des personnes qui avaient forcément fait des trucs de ouf dans leur vie. Donc, je sais pas où j'ai été puiser tout ça. Genre, vraiment, je sais pas où, genre, mon inspiration, mon envie... Je sais pas, c'était ancré, peut-être que j'étais née pour ça, peut-être que genre ce qui m'arrivait c'est juste la destinée et que ça fait juste ressurgir de moi genre ce qu'il y avait enfoui, tu vois, genre en mode d'aider les autres. Et j'ai toujours écrit depuis gamine, mais encore plus aujourd'hui, tu vois, c'est pas du tout la même écriture, c'est pas, je sais pas, meuf, Et après, avec le temps, oui, maintenant, genre, je vieillis, maintenant, je m'inspire de personnes comme toi, je m'inspire de personnes comme des youtubeurs, genre, je lis beaucoup, beaucoup de citations, beaucoup d'auteurs, tu vois. Et je m'imprègne un peu de tout ça, mais à la base de la base...
C'était en toi.
C'était en moi, quand je me suis dit, vas-y, j'y vais, on verra, tu vois. Et ça a été du feeling, au final, tu vois.
Ouais, mais c'est souvent...
T'as eu un déclic particulier,
Non, du tout. Moi, c'était... c'était aussi cette volonté. Moi, là-bas, c'était assez égoïste. Hein. C'était je kiffe ce que font les gens sur Insta. J'aimerais de ouf commencer à partager ma passion pour le sport, le bien-être.
Enfin, ça commence tout le temps comme ça. Ouais. Au final, à qui tu demandes aujourd'hui, genre n'importe qui, c'est soit pour percer, littéralement, il y en a qui te le disent. C'est pour percer, c'est pour avoir des abonnés, c'est parce que genre, les placements de produits, les voyages tout payés, c'est la planque. Il y en a qui te le disent ouvertement. Il y en a qui te disent, bah, comme toi, tu vois, genre moi, je voulais partager mon histoire, je voulais partager mon contenu. Mais moi, meuf, égoïstement, j'ai lancé mon compte Instagram pour savoir ce que les gens. Penser de moi, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est hyper égoïste au final.
Ouais, mais c'est marrant au final. En fait, je pense que c'est. De toute façon, moi, c'était pas une recette secrète que je te demandais, parce que je suis persuadée qu'il y en a pas. La seule recette secrète, c'est d'être vous-même. Mais oui, en termes de. C'était quoi ma question déjà? C'était qu'est-ce qui t'a inspiré?
Ouais, à la base. Ouais.
Non, c'est plus le côté, même aujourd'hui, ouais, mais tu y as répondu, ce qui te nourrit, tu vois.
Ouais.
Et donc, toi, c'est beaucoup l'écriture, du coup, dans laquelle tu te.
L'écriture,
tu
ouais, la transmission, ouais, je te dirais. Transmission des valeurs, au final, que j'apprends tous les jours. Il n'y a pas longtemps. On me propose depuis X temps d'écrire un livre. J'ai eu les contacts de tout le monde, genre de Larousse, Enfora, enfin, je t'en passe, tu vois. Tout le monde me court un peu derrière pour que j'écrive un livre. Et. Au final, je trouve pas avoir le recul nécessaire, tu vois, pour écrire un livre. À chaque fois que j'écris quelque chose pour écrire un livre, je le raye le lendemain et je fais « Ah mais non, j'ai appris un nouveau truc aujourd'hui, tu vois. »
Ouais.
Et au final, Instagram, moi, ça a été hyper salvateur et hyper libérateur dans ce sens-là. Parce qu'au final, quand j'apprends un nouveau truc, je peux l'écrire, tu vois.
Ouais, c'est pour ça
que je suis dans cette transmission.
Ouais.
Je partage juste, au final, ce que j'apprends tous les jours.
Ouais.
C'est trop cool.
Mais c'est marrant, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que, un... je pense que ce que t'écris ne doit pas être rayé. C'est un peu le côté perfectionniste qu'on a de. Mais non, en fait, j'ai appris autre chose aujourd'hui qui ne vient plus valider ce que j'ai dit hier. Mais je pense que de toute façon, c'est une learning curve et que tout peut aider les gens, tu vois. Et deux, c'est que au pire. Fais une espèce de compile de tes légendes Insta qui sont magnifiques.
Ouais, c'est ce que je voulais faire.
Moi, je
c'est
vois
que j'ai
trop
pensé.
Des poèmes
j'y ai
de
pensé.
Février. Enfin, ton histoire aussi, tu vois, on peut faire plusieurs livres. Mais comme tu dis, si tu te sens pas aujourd'hui avoir le recul sur ton histoire,
tard, vraiment, genre,
au moins partage ta plume, quoi.
En fait, moi, ce qui me dérange, c'est le bail un peu autobiographie, tu vois.
Ouais.
De genre, je raconte ma vie, je raconte mon histoire.
Alors que t'as 23
ans. J'ai 22 ans, tu vois. Genre, calmez-vous. Genre, il va se passer quoi quand j'en aurai 28, tu vois. Je vais pas ressortir des livres tous les ans, tu vois ce que je veux dire, pour expliquer ce qui s'est passé cette année. Enfin, genre, maintenant, ça me convient pas, tu vois. Par contre, oui, j'ai pensé à partager, genre, mes citations, à partager ce que j'ai écrit, à partager, ben, justement, ma vision du développement personnel, comment accepter le regard des gens, etc. Why not, tu vois. Au final, c'est des choses que je fais sur Instagram, c'est des choses que je fais aussi sur YouTube. Donc, je suis là en mode, le livre, j'essaie de trouver le juste milieu, mais je pense que ça sera quand je le sentirai plus, tu vois.
T'as raison, faut pas se forcer.
Ouais,
et ça, c'est important aussi, je le dis aussi aux auditeurs et aux auditrices, c'est parfois on a des propositions, on a des idées, tu vois, on a des opportunités, mais au fond, on sait pas pourquoi, on n'a pas envie d'y aller à
100%. C'est ça.
Et moi, j'ai envie de dire, écoutez-vous.
Écoutez-vous, ouais, c'est ça.
Parce que plusieurs fois aussi, j'étais dans cette situation où je comprenais pas pourquoi,
j'étais pas enjaillée,
tu vois.
Ouais, grave.
Je comprenais pas, et en fait, ben juste, c'est pas ce qui te correspond ou ce dont t'as envie maintenant.
Ouais,
quoi.
Et en fait, généralement, quand tu te lances, au moment où t'es à 100% sûr de toi, tu sais pourquoi fallait pas que tu te lances avant. Moi,
c'est
ça m'arrive tout le temps. Genre, ça m'arrivait avec YouTube, tout le monde me disait, genre, depuis des années, genre, faut que tu parles sur YouTube et tout, et j'étais là, non. Au final, j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça a fait un gros buzz de ouf, et j'étais là, bah, peut-être qu'il fallait juste que j'attende. Et au final, ce qui était ouf, au-delà du buzz que ça a fait, et que c'était, genre, génial d'avoir autant de retours, ce qui était ouf, c'est que ma vidéo de mon accident, donc 12 février 2013, je l'ai sortie le 12 février.
Ouais, en plus.
Pur hasard, j'étais là en mode, bah, ça tombait pile poil.
C'était
même pas voulu presque, j'étais là en mode, bah, vas-y. C'était le destin, fallait que ça se passe comme ça, tu vois. Et est-ce que toi, t'as eu peur au final de te lancer seul, de travailler seul? Est-ce que t'as eu ces trucs en mode putain, comment je vais faire les papiers, l'URSSAF? Tu vois, moi j'ai stressé à un moment, j'étais là en mode waouh, ça fait beaucoup, les impôts à gérer, le truc, on a 22 piges toutes les deux, tu vois, et là en mode waouh.
Bah en fait, moi j'étais étudiante encore quand j'ai lancé tout ça. Donc en fait, j'ai pas eu à me poser la question. Enfin, je pense que ça aurait été très différent si j'avais un travail à côté déjà.
Moi, j'avais déjà un travail.
Voilà, tu vois, où du coup, il y avait entre guillemets une étape à sauter. C'est juste que, en fait, je suis encore étudiante. Hein. J'ai repoussé la fin de mes études à l'année prochaine pour prendre un an de césure. Mais du coup, tout ça s'est fait en parallèle de mes études. Donc j'ai suivi le pas. Ouais. Et je sais que je t'ai répondu à la question que tu sais qu'on me pose encore hyper souvent. Tu veux faire quoi plus tard? Ce que je le fais déjà. Ouais, c'est qu'en fait, j'ai juste réalisé, quand tout ça a commencé à se mettre en place, que j'ai pas trop le choix que de faire ces papiers, que de me lancer seule, entre guillemets. Qu'en fait, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai eu cette chance où j'ai pas eu à... en soi, prendre de décision de changement de cap ou de changement de vie.
Ouais, tu vois, moi aussi.
J'ai fait avec. C'est ça. Et c'est devenu ma réalité, tu vois.
C'est cool que ça soit passé comme ça, tu vois, parce que moi, j'avais mon projet de coach sportif, j'avais mon ex à l'époque.
Ouais.
Meuf, pour me lancer là où je suis aujourd'hui, mon ex, on a dû se séparer, parce qu'au final, il y avait des ultimatums et c'était compliqué.
Ah ouais.
On a dû se séparer. Le truc coach sportif, BPJEPS, je voulais m'inscrire à la rentrée, j'ai tout envoyé péter. En fait, moi, littéralement, j'ai tout envoyé péter, je me suis dit, ok, je me lance, genre sur les réseaux, ça devient mon truc, tu vois.
Ouais.
Et c'était chaud, cette période-là, parce que expliquer à tes parents en mode. Hey, je deviens Instagrammeuse, genre t'es là, tu fais quoi? Genre en plus ils comprennent pas, c'est le nouveau métier, c'est compliqué, tu vois.
Totalement. Ouais. Et ça, je suis contente, comme tu dis, de pas avoir eu trop à faire ce choix, parce que pour connaître des filles qui ont eu à faire aussi cette décision, je trouve qu'après ça donne un côté trop business.
Ouais.
Je sais qu'il faut que moi je le vois plus comme ça et tout, mais tu vois, moi typique, tu parles des stats, moi je regarde jamais,
dans cette spontanéité là.
Ouais, et comme du coup j'ai pas eu à faire ce choix où j'aurais eu une énorme pression, je pense, si j'avais eu à me lancer, parce qu'il y a un moment il faut payer tes factures à la fin du mois, il faut que tu vives, tu vois, j'aurais carrément plus appréhendé la chose en mode bon, faut faire tourner la machine, tu vois, que j'ai pas du tout, parce que voilà, j'habite encore chez mes parents, que j'avais un toit.
Moi j'ai pas eu cette vision là, ce que j'allais te dire, parce que j'avais encore la chance d'être chez mes parents, donc j'avais pas d'appart à payer, l'assurance de ma voiture au cas où il y avait papa maman derrière. Donc au final, je me suis lancée en mode mes parents, c'était limite ok, on te laisse un an, tu vois.
Ouais.
On te laisse un an et on voit. Et au final, ils m'ont laissé un an et ça a marché, tu vois. Mais si ça avait pas marché, je me serais retournée, tu vois. J'ai toujours. Tu retournes,
c'est pas. C'est sûr, mais c'est sûr. Mais c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, tu peux prendre des études quand tu veux.
Ah.
T'as pas l'accord de coup, tu vois.
Mais tu vois, c'est exactement la réflexion que je me suis faite. C'est genre quand j'ai laissé mon BPJEPS de côté, mon diplôme de coach, je me suis dit, écoute, Jules, en vrai, une formation, ça bouge pas dans le temps. Dans 10 ans, tu peux encore la passer. Instagram, les réseaux.
Tu sais pas combien de temps ça dure.
Fini. Ouais, autant demain c'est fini, c'est un nouveau métier, tu sais pas. Genre, autant demain même, on se fait éclater par les impôts parce qu'ils commencent vraiment, tu sais, à creuser le truc.
Ouais.
T'as des lois qui sortent, tu t'en sais rien.
Ouais.
C'est tout récent. Genre, on n'est pas en train de parler d'un métier de commercial que tout le monde connaît avec des fiscalités, genre imposées, j'en sais rien. Genre, personne sait.
Carrément.
Tu vois. Et au final, dans X temps, peut-être ça marchera plus de la même manière.
Ouais.
Donc, autant le vivre à 200% et puis voilà, tu vois. Mais une formation, ça bouge pas dans le temps.
Carrément.
Voilà.
Et est-ce que t'as pas eu du mal, toi, juste avec le changement de vie personnelle que ça entraîne?
Si.
Parce que ça entraîne quand même un gros changement, quoi.
Aujourd'hui, je te parle plus par rapport à la notoriété. Déjà, par rapport à mon mode de vie, je t'ai dit, j'ai perdu mon ex par rapport à ça, qui ne suivait pas le virtuel, c'était compliqué, j'étais souvent sur mon téléphone, souvent sur l'ordinateur.
Ouais.
Tu sais, c'est quelque chose qui rythme un peu ta vie. Après, j'arrive vraiment à déconnecter, tu vois, je me fais des day-off, genre littéralement, genre en mode je lâche mon tel, je suis là en mode vas-y, je vais profiter, je vais marcher, je vais faire une rando, genre là je vais faire du sport, je lâche mon téléphone, j'ai pas envie et tout. Donc déjà il y avait ce côté hyper virtuel où t'es tout le temps sur ton tel, tu vois. Mes parents ont du mal à le vivre, donc déjà à niveau personnel c'était compliqué, des fois c'est des prises de tête en mode t'es tout le temps sur ton tel, tu t'amuses, non je m'amuse pas, je fais des stories qui sont rémunérées, tu vois,
genre
au final je travaille là, donc c'est compliqué déjà d'expliquer ça. Et au-delà de ça, au niveau de la notoriété que ça peut encourir, je sais pas si toi t'as vécu ce genre de choses, mais moi aujourd'hui certaines personnes qui essaient en tout cas de rentrer dans mon cadre de vie, de rentrer dans ma bulle, tu vois, genre moi j'ai ma petite bulle avec mes amis qui sont là depuis bien longtemps, ou alors j'ai les gens qui rentrent, qui sont soit du même milieu comme toi, t'as pu rentrer dans ma petite bulle, on est là à parler aujourd'hui, tu vois, mais aujourd'hui je me méfie grave des gens qui m'approchent, mais inconsciemment peut-être aussi, tu vois, mais j'ai fait tellement face à des gens qui étaient profiteurs, qu'aujourd'hui je me méfie, tu vois, et ça au niveau personnel ça a été compliqué, c'est compliqué en fait de gérer les gens qui veulent rentrer dans ta bulle, juste parce que t'es 12 février et pas parce que t'es Julie Bourges, tu vois.
Comment tu t'en es rendu compte, ça?
Tu sais, genre, ça, tu t'en rends compte. Genre, t'es autour d'un verre et puis ça demande des stories. Vas-y, identifie-moi, machin. Genre, en mode.
Ouais.
Et tu sais, être très intéressé aussi. L'argent, c'est un sujet qui est très tabou en France. Moi, personnellement, j'ai zéro souci à parler de ça. Mais tu vois, c'est Ces gens qui vont me dire, mais alors du coup, et tu sens le vice derrière, en mode, mais du coup, attends, comment ça marche en fait? T'es payé comment? Mais t'es payé combien quand tu fais ça? Et au minimum, c'est quoi la fourchette et tout? Mais.
Mais trop bizarre, ça, c'est des gens qui te contactaient, qui te
disaient. Bah, tu sais, c'est des gens potentiellement que je pourrais rencontrer en soirée. Par exemple, tu vois, t'es en soirée avec des potes, donc t'es en soirée, il y a des gens que tu connais pas, mais qui te reconnaissent en tant que 12 février, tu vois, en tant que Julie, ce que je te disais, et qui viennent te parler un peu, qui viennent essayer de gratter l'information, le truc. Et au final, ben, petit à petit, t'apprends juste à cerner les gens, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça, mon ami Hugo, parce que j'ai un ami à Sciences Po, Hugo Décrypte, qui est youtubeur aussi. Ouais. Il m'avait dit que lui, depuis le début de l'année, c'était une soirée aussi qu'on avait ensemble avec des amis à Sciences Po, que notamment les meufs, tu vois, venaient vers lui et que, en fait, c'était super dur pour lui parce qu'il savait plus si les meufs venaient vers lui parce qu'ils étaient vraiment intéressés pour qui il est ou pour sa notoriété. Et moi, j'étais grave tombée des nues. Je suis une meuf super naïve.
Ouais.
Et donc, jamais je m'étais dit qu'un mec pourrait venir me voir, genre plus pour ma renommée, entre guillemets, parce que pour moi, ça n'a tellement pas d'intérêt. Mais après, tu vois, je pense que j'ai été quand même assez épargnée. Parce que je donne pas du tout mon amitié facilement.
Ouais.
Et donc en fait, quand c'est de me gratter, que ce soit pour ma notoriété ou pas, si j'accroche pas, je vais pas pousser.
Ouais, c'est ça. Mais
donc
moi,
en fait, du coup, je crois que je touche du bois, j'ai jamais eu.
Bah, tant mieux.
Tu vois, affaire à des profiteurs.
Personnel, t'as senti le changement aussi? Genre niveau, comme on disait, plutôt genre ce mode geek un peu activé.
Bah alors moi, c'était pas trop le mode geek. En fait, c'est plus le mode. En fait, ça a commencé moi pas seulement par Insta.
Ouais.
Ça a commencé avant, ça a commencé quand j'ai eu ma transformation physique et que je suis rentrée à fond dans le fitness et la nutrition. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très 0% ou 100%.
Okay.
Et donc, qui aime vachement avoir le contrôle. Et là, je parle avec du recul, tu vois, parce que je l'ai réalisé sur moi-même. Où en fait, j'étais à 100% dans ce monde-là. Et en fait, c'était là, limite, avant même d'avoir Insta, où j'ai le plus changé. Et un peu trop, c'est que je vivais plus que pour mes séances, que pour bien manger, ou tu vois, j'avais même plus envie de sortir parce que je voulais être en forme pour ma séance du lendemain, ou voilà.
Sport
ou,
à outrance un peu.
Voilà, et en plus, bon, mes parents sont hyper bienveillants, donc je m'en prenais plein la gueule, mais t'es quand même obsédée, t'es ridicule, blablabla. Et en fait, ça me bloquait encore plus, et enfin, j'avais encore plus envie de me réfugier là-dedans. Et au contraire, les réseaux m'ont aidée. Ouais. À réaliser que ça, c'était pas une fin en soi, et que bon, même si le sport c'est très bien pour se sentir bien dans sa peau, c'est une partie de ma vie, mais c'est pas toute ma vie.
C'est pas tout à fait.
Surtout que voilà, je t'ai dit, je me suis rapidement en plus sentie enfermée parce que j'avais pas envie de parler que de ça toute ma vie, quoi.
Moi, c'est que j'ai eu le même effet, tu vois.
Et donc, au final, j'ai réussi un peu plus à. Enfin, carrément trouver un équilibre dans ma vie.
Ouais.
Et après, bien sûr, les réseaux sont rajoutés, donc cette forme de contrôle s'opère un peu toujours dans le sens où voilà, je fais beaucoup de choses, mais j'aime ça. C'est un choix et j'essaye au maximum de quand même couper et de garder du temps pour les trucs que j'aime faire. Voilà, j'ai un copain, je garde du temps pour mon copain, je vois mes potes, peut-être moins que quand j'avais 16 piges, mais je les vois
et
je kiffe ce que je fais. Et puis, je trouve en plus, avec ce qu'on fait, tu vois, je réfléchissais quand même, où c'est vrai que je peux avoir moins de soirées avec mes potes et tout, mais tu vois, on va avoir des événements ensemble cette semaine, donc on rencontre du monde, on va avoir des interviews, machin, donc je me sens pas du tout isolée.
Ouais, c'est ça.
Pas du tout.
Non, mais après, je comprends, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment savoir faire la part des choses.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais comment tu fais tout le temps sur ton téléphone, moi je pourrais pas, nanana, mais au final, c'est vraiment un juste milieu. Enfin, je veux dire, mon père, tu vois, il est commercial. Il y avait, quand on était gamin, il partait des jours entiers, genre 4 jours, il revenait, il nous emmenait genre au piano, à la musique, le machin, à la gym et tout, et il revenait et il repartait, enfin, c'est un mode de vie aussi, tu vois, tu choisis au final de gagner, entre guillemets, beaucoup d'argent, tu vois, genre en faisant un travail qui paye, mais tu choisis aussi le mode de vie, genre, qui va avec et auquel tu dois t'adapter au final.
Ouais.
Et nous, c'est pareil, mais moi, je pense que c'est vraiment juste milieu, genre, t'arrives... Tu fais en fait ton petit emploi du temps et t'arrives à libérer du temps, comme tu dis, bah, pour ton chéri, t'arrives à libérer du temps pour tes potes, etc. Mmh. Et c'est ça qui est important. Ce qui peut être dangereux, bah, justement, c'est de tomber dans l'outrance, mais comme on parlait au niveau du sport, tu vois.
Ouais.
Genre, moi, je me suis réfugiée dans le fitness à outrance, je m'entraînais tous les jours, genre c'était ouf, tu vois. Et c'était là en mode, ouais, le physique, parce que je voulais compenser au final mes brûlures, tu sais, mes cicatrices, avec un joli corps.
Mais
genre,
sense.
Tu vois, genre au final, genre je suis brûlée, mais par contre, je suis bonne, tu vois. Genre,
mais en fait, même, c'est horrible, c'est d'abord la société nous rabâche qu'on doit être belle et
mais
bonne.
C'est ouf, tu vois, j'étais
que des yeux t'y raccrochais, genre.
J'avais 16 piges, 17 piges, j'étais là en mode, vas-y, je vais, genre, moi je serais bonne, tu vois, genre je suis là, mais c'est n'importe quoi. Et au final, c'est comme le sport, éviter de tomber dans le truc à outrance en mode pour plaire quelqu'un d'autre, et là c'est la même chose, tu vois. Éviter de tomber à outrance dans les réseaux, dans le virtuel, en mode on ne vit plus que pour ça. Et au final, tu t'en oublies, quoi.
De ouf. Moi, c'est mon pire, serait mon pire cauchemar.
Mais c'est horrible.
Tu te réveilles, en fait, t'as plus de vie.
Tu te réveilles, tu regardes combien de vidéos elle a fait de vues. Tu regardes ta dernière photo, combien elle a fait de likes. Enfin, moi, j'ai tilté il y a deux jours que ma photo, on veut du vrai. Elle avait buzzé, j'étais là, moi, wow, ça.
Ouais, ouais.
Likée par Nico, ça y agace. Genre,
big up, si tu nous écoutes.
Non, mais c'est ouf.
Ouais.
Tu vois, mais je suis pas du tout... Ouais.
Mais j'ai grave vu aussi... Enfin, j'ai grave aimé ce que j'ai entendu... sur le podcast de Lewis Howes, The School of Greatness, donc c'est un podcast anglais, chers amis qui parlent anglais, de Jamila Jamil. Tu sais, c'est la meuf qui a lancé Highway, que j'adore. Ouais. Si jamais vous la connaissez pas, mais allez regarder son compte, cette meuf est genre brillante. Et déjà, j'admire énormément parce qu'elle le dit elle-même, quand tu choisis d'être militante, tu choisis de refuser énormément de partenariats, de notoriété, peu comme nous on fait. Moi, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de crier sur tous les toits, mais les gens le savent dans tous les cas. Mais en postant le type de photos qu'on poste, vous pouvez être sûr qu'on a beaucoup moins de partenariats qu'une personne qui a un feed super lisse, super léché. Ouais, c'est ça, Chanel, on peut oublier, mais en fait, c'est pas grave. Genre, moi, c'est mes convictions qui comptent avant tout. Et elle a vraiment fait ça à grande échelle. Et Lewis lui demandait à un moment quel serait ton plus grand regret, tu vois. Et au début, elle te dit... je sais plus ce qu'elle dit, puis au final, elle dit « Non, en fait, ce serait de réaliser que je ne fais que travailler. » Parce qu'elle dit « Je sais c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que je peux aussi dire, en vérité, tu vois, je travaille vraiment les trois quarts du temps. » Et elle dit « Alors que... » Et ça, j'essaye vraiment de jamais l'oublier. Les moments, elle dit « Le moment que je préfère dans ma journée, c'est le matin quand je me réveille et que je suis un câlin à mon mec, tu vois. » Et genre, tu sais, ça m'a vraiment fait réaliser, et c'est, en fait, c'est vrai, j'avais entendu ça aussi d'une autre blogueuse en Angleterre qui lance plein de business et tout, genre elle travaille tout le temps, elle adore ce qu'elle fait, mais en fait, ça, c'est son équipe qui lui a dit, écoute, meuf, tu fais pas tout ça pour ne même pas en profiter. C'est-à-dire qu'on aime tellement créer, on aime tellement donner vie à des projets qu'on en oublie que la vie, elle est faite quand même pour kiffer, tu vois.
Je vais te poser une question simple. Est-ce que t'as l'impression de travailler?
Bah, non.
Bref, il y a la situation, tu la connais, hein.
Ouais, c'est clair.
Tu vas choisir un travail que t'aimes et t'auras pas fait un seul jour de ta vie, c'est exactement ce qui nous arrive. Et c'est là qu'en fait, c'est le piège, tu vois. Vu que t'as pas l'impression de travailler, vu que t'aimes ce que tu fais, mais genre profondément, c'est une passion de une passion de parler avec des gens. Moi, c'est une passion de répondre aux commentaires de mes abonnés, je te jure. Je regarde tout ce qu'on m'écrit, genre je suis tout le temps là, je réponds au moins pendant une heure et tout. Genre mes potes savent, ma famille savent que dès que je poste pendant une heure, vous m'oubliez quasiment.
Parce que
je prends du temps, genre si quelqu'un qui me suit peut écrire un commentaire, j'ai le temps de lui répondre, tu vois.
Mais grave.
Donc je prends le time, tu vois.
Grave.
Mais c'est le risque. En fait, vu que t'as pas l'impression de travailler, vu que ça te plaît et que tu fais ce que t'aimes. Bah, tu peux t'en oublier, en fait. Tu peux aussi t'en oublier, genre, vis-à-vis, bah, justement, de ton chéri, vis-à-vis de tes potes, etc. Moi-même, je peux te garantir que ce que je kiffe, genre, vraiment, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est, genre, sortir, manger, danser avec mes potes, tu vois.
Ouais.
Je kiffe danser, genre, je kiffe ça.
C'est pareil, ensemble.
Mais tu vois, je kiffe ça. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre parce que, genre, un soir, je dois poster sur Instagram et que c'est hyper important. Bah, tu vois, des fois, meuf, je travaille avec des marques. Et des fois, j'ai juste pas envie, en fait. Je me dis, tu sais quoi, c'était prévu. Bah, ok, c'est peut-être pas sérieux, mais je m'écoute. Tant pis, pas ce soir. J'appelle la marque, véridique, mais je lui dis, je posterai demain. Tout le temps, ils sont compréhensibles de toute façon. Genre, c'est toi, meuf, c'est ton contenu, tu vois.
Ok,
pas de soucis. Il y a des soirs, meuf, où j'ai juste besoin de décompresser, j'ai juste besoin de faire ce que j'aime aussi, tu vois, à côté des réseaux, bah, danser, sortir voir mes potes, sortir voir les gens que j'aime, voir ma famille, etc. Donc je le fais, tu vois.
Carrément.
Je le fais. Il y a combien de rendez-vous j'ai zappé parce que je voulais aller manger chez ma grand-mère le midi. J'ai la chance encore d'avoir mes quatre grands-parents, meuf.
Oh là là,
tu vois.
Chance.
Et genre, il y a pas longtemps, on a fait l'anniversaire de mon petit frère, ils étaient tous là.
Ouais.
Et j'étais là en mode, ok, j'ai trop de chance, tu vois. J'ai trop de chance et c'est. Je peux pas laisser le virtuel, même si ça me plaît, même. En fait, je peux pas laisser mon taf gâcher ces moments-là, tu vois.
Carrément.
Donc je les vis, tu vois.
Ouais.
Et c'est ça. C'est ce qu'il faut qu'on.
C'est ce qu'il faut faire, carrément.
C'est ce qu'il faut faire,
Je suis d'accord. C'est tu vois, cette phrase, « Trouve un travail que tu aimes, mais tu n'auras jamais l'impression de travailler un jour de ta vie. » Andrea Ali, qui est une amie aussi, qui est youtubeuse, make-up artiste, l'a dit en disant « C'est la phrase que je déteste le plus au monde.
»
Elle a dit « Parce que, oui, j'adore ce que je fais, mais je travaille. »
Je
travaille. Et donc, en fait, t'as grave raison. C'est que nous, on s'en rend pas compte, entre guillemets, mais
on
derrière, notre corps le ressent, notre
arrachés.
Cerveau le ressent, et il faut prendre du temps off, quoi.
Parce que, après, je pense que, peut-être que moi, je suis capable de te dire cette phrase, parce que justement, je sais prendre du temps off aussi, tu vois.
C'est vrai.
Donc, au final, vu que j'arrive à prendre du temps off, j'ai moins l'impression de taffer que si j'en prenais pas, tu vois.
Ouais.
Mais,
ouais.
Enfin, non, c'est ça, c'est en juste milieu, c'est juste ne pas arriver au stade d'en être dégoûté.
Carrément.
De ta propre passion. Mmh. J'ai été gymnaste pendant 10 ans. Mmh. Meuf, c'était ma passion.
Ouais.
Mais quand on te pousse dans tes putains de retranchements au point de genre d'en pleurer à des entraînements, je te jure qu'à un moment t'en arrives et tu dis, mais genre.
T'es dégoûté du truc.
Fuck
quoi.
Off, genre en mode, tu sais quoi, j'en peux plus.
Ouais.
Et j'ai juste pas envie d'en arriver là, donc je fais attention à ce que je fais, tu vois, je pense que toi c'est pareil.
Ouais, voilà. J'ai fait de la GRS en plus, donc on a vraiment des parcours qui se rapprochent. J'étais avec ma soeur jumelle au compète et tout. Ouais.
Tu vois, voilà.
Et attends, je voulais dire quoi par rapport à ça? Par rapport. Ah oui, je voulais dire, c'est que, en fait, je pense que le problème, et que j'ai, franchement, je le reconnais et tout, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à réaliser, et qu'on arrive en fait à s'écarter de cette espèce de glorification du travail.
Ouais.
C'est chaud qu'on vit dans une société aussi où on a l'impression qu'il faut tout faire tout de suite. Ouais. Moi-même, genre, pourquoi on fait autant de trucs, pourquoi j'adore lancer autant de projets, mais c'est parce que derrière, j'aime cette idée, tu vois, j'imagine de créer des projets, de,
ouais.
C'est ce qui me fait vibrer, mais faudrait qu'on réalise que non, c'est pas que ça le but dans notre vie.
C'est ça.
Et tu vois, si on glorifiait, mais comme finalement on glorifie autre chose que le corps de la femme, si on glorifiait ses compétences, si on glorifiait ses capacités, c'est ça, ce vers quoi on aspirait,
ouais.
Tout comme si on glorifiait un peu plus peut-être l'équilibre, ou si on glorifiait un peu plus le temps passé en famille plutôt que le temps passé au pro,
ouais.
Bah, on n'aurait pas la même approche de vie, tu vois. Parce que tout ça, c'est du conditionnement, en fait.
C'est ça, meuf. C'est exactement ça.
Mm.
C'est exactement ça.
Mais bon, après, moi, j'ai pas la recette. Franchement, ce qui m'aide beaucoup, c'est les livres. Je trouve qu'il y a des gens qui ont compris beaucoup de choses, tu vois. Ouais,
oui.
Mais faut trouver. Enfin, en fait, faut pas les prendre comme une vérité générale parce que sinon, ils ne correspondent pas tous, tu vois.
En fait, tu
mais tirer le bon de chaque.
Exactement. Tu sais, moi, genre, généralement, sur mes livres de développement perso, j'ai un surligneur à la main.
Ouais.
Et je surligne juste ce qui me parle, tu vois.
Ouais, ouais.
Ce qui me parle. Et généralement, c'est comme ça d'ailleurs que j'écris mes quotes Insta, tu vois.
Mm.
Genre, en mode, des fois, j'ai mes livres où je tombe sur une citation comme ça, genre, et je me dis, putain, ça faut que j'en parle, tu vois.
Ouais, ça te parle.
Et après, j'en parle, mais j'en parle avec ma vision et mon propre développement personnel, tu vois.
Mm.
Celui que j'ai fait sur moi-même, tu vois.
Ouais. Voilà. Est-ce que t'es déjà allé voir une psychologue ou une thérapeute?
Non.
Ok.
Non, je me suis vraiment... à l'hôpital, j'étais obligée, psychiatre et psychologue. Mais une fois que je suis sortie, j'ai vu personne et je me suis faite, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, un peu seule avec ma famille, mes amis, mon entourage, tu vois. Mais j'ai fait le choix de ne pas être suivie.
Ok.
Voilà.
C'est fort. Après,
ouais.
Moi, j'encourage chaque personne qui en a besoin à aller voir.
Bien
mais,
sûr, bien sûr.
C'est vrai que c'est difficile de trouver la bonne personne, en fait.
C'est
exactement
ce que j'allais dire. Je crois que j'ai juste pas trouvé la personne qui aurait pu me correspondre à ce moment-là de ma vie.
Ouais.
À ce moment-là de ma vie.
Ouais.
Et puis, en plus de ça, j'étais fermée. J'avais 16 ans. J'étais fermée par rapport à ce qui m'était arrivé. Il faut arriver à trouver quelqu'un qui arrive à casser cette carapace et te faire parler, tu vois.
Ouais, aujourd'hui, c'était trop tôt, quoi.
Aujourd'hui, tu me mets face à une psychologue, et d'ailleurs, j'en ai rencontré plein, tu vois, dans des hôpitaux, quand j'ai fait des visites et tout, je peux largement parler avec eux, tu vois. Et au contraire, en plus, la psychologie, c'est quelque chose qui me plaît.
Mmh.
Donc, je kiffe parler avec ces personnes, parce qu'au final, elles m'apprennent encore des choses sur moi, tu vois, c'est un peu comme du développement personnel. Mais à 16 ans, j'étais là en mode, tu sais quoi, laissez-moi tranquille, genre, je me fais toute seule, et j'étais un peu en mode, tu sais... badass.
Ouais, c'est trop tôt en vrai,
ouais,
parfois.
Je suis un peu en mode badass, en mode c'est quoi, il s'est marié, je m'en sors toute seule.
Pas besoin de vous, les
voilà,
gars.
C'est ça, comme ça, là. Voilà.
Est-ce qu'il y a un livre de développement personnel ou autre qui t'a particulièrement touché ou dont tu gardes un souvenir particulièrement fort?
C'est pas un livre de développement perso, c'est On a deux vies et. Non, on a.
Attends, c'est quoi?
Ouais, on a deux vies et. La première... Non, putain, j'arrive pas à le dire.
Ah, ça me dit un truc.
Attends,
la première commence le jour où...
Et la deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on en a qu'une. Voilà, j'ai pas réussi à le dire. Le titre est super long. Et c'est un livre, en fait, qui m'a beaucoup aidée, moi, par rapport à mon accident, en fait, par rapport à mon vécu. Je vous le conseille vraiment. Il est incroyable. Ça a été un best-seller pendant, genre, des années et des années, genre. Il est ouf.
Ok.
Voilà. Il est ouf et ça te rappelle juste... Bah, l'importance que peut avoir la vie quand tu frôles la mort, en fait,
ouais,
tout simplement.
Ouais, ouais.
Et au final, il y a plein de citations dedans, plein de petites anecdotes, et je kiffe ça. Voilà.
Est-ce que t'as vu la vie différemment après ton accident?
Ouais, littéralement.
Ouais. Est-ce que t'as eu l'impression de réaliser ça, que t'avais qu'une vie et que t'en avais pas... Tu réalisais pas avant?
C'était moi après mon accident, c'est ma deuxième vie qui a commencé. Hein. Mon accident, tu vois, enfin moi je suis en mode phénix, genre, c'est mon petit surnom, mais c'est vraiment le cas. Genre voilà, je renais de mes cendres et je renais plus forte que ce que j'étais avant. Donc ça, c'est la signification du phénix, mais c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de la Julie que j'étais à 16 ans, j'ai l'impression que ça en fait genre 20.
Mmh.
J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, quoi.
Ouais, ouais.
Genre,
ouais.
il y a 1000 ans, je retombe sur des photos sans mes cicatrices, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Genre, c'est vraiment ma deuxième vie, tu vois,
ouais.
avec mes cicatrices, etc. J'ai l'impression, enfin, si ma mère m'entend dire ça, c'est horrible. J'ai l'impression que mon anniversaire, c'est le 12 février, tu vois.
Ouais.
Pas le 11 novembre, tu vois.
Ouais.
Genre, c'est ouf.
Ouais.
Mais c'était vraiment le jour de ma renaissance. Et je l'ai senti sur plein de choses. On pourrait faire un podcast de 3 heures, tu vois, mais par exemple, quand j'étais en soirée, mais vraiment. Quelques temps après mon accident, genre je te dirais même 5 mois après mon accident, tu vois, genre, enfin 5 mois après ma sortie d'hôpital, du coup, je me retrouve en soirée avec mes potes, mais mes potes de toujours, mes potes du lycée. Et j'étais là en mode. J'étais ailleurs, meuf. Je me reconnaissais plus dans ce qu'ils disaient, ça parlait d'alcool, ça parlait de soirée, ça parlait de mec, et moi j'étais là en mode. J'étais en train de réfléchir au sens de la vie et au sens de la mort, tu vois.
Ouais, j'étais
complètement out, et au final, dans ces soirées de lycéens que tout le monde a connues, que j'aurais dû kiffer, genre. Bah, vu que je me suis pris à ce moment-là la gifle de ma vie, je me retrouvais dans ces soirées à parler aux grands frères, aux grandes sœurs, aux parents, aux grands-parents. Meuf, je te jure, je rigole
pas. Ouais, t'as une maturité en fait d'un coup, quoi.
Tu prends un coup de maturité d'environ genre 5-10 ans, facile, tu vois.
Ouais.
Facile, et moi, la plupart des gens que. Mais c'est même pas pour me mettre sur un piédestal, c'est juste la vérité de ce qu'on me dit, tu vois. C'est genre la moitié des gens que je rencontre aujourd'hui pensent que j'ai facile, genre 25-26 ans.
Ouais.
Mais tout le temps. Tout le temps, alors qu'au final, j'ai une tête de bébé, tu vois. Mais, genre, au final, tu vois, les gens, parce que, bah, je pense que c'est pareil pour toi. Tu vois, moi, quand tu m'as dit ton âge, la première fois, j'étais là en mode, waouh, c'est abusé, tu vois.
T'es de quelle année? T'es 96, bon, on a un an d'écart.
Ouais, tu vois.
Ouais.
Et du coup, j'étais là en mode, ah ouais, putain, parce que, bah, dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de te comporter, dans cette vision que tu peux avoir de la vie, tu vois, juste, en fait, tu prends un step au-dessus de ce que tu pouvais voir quand t'étais plus jeune, parce que t'as grandi, parce que t'as avancé, parce que t'as voulu grandir aussi, tu vois. T'as fait un travail sur toi-même que d'autres ne font pas.
Mmh.
Donc, du coup, t'es un peu au-dessus de la réalité à laquelle tu faisais face avant. Mmh. Et du coup, les gens, ils sont là en mode, ouais, mais genre, toi, t'as pas 20 ans, c'est impossible, tu vois.
Mais je pense que t'as raison, en fait, la maturité, je crois que c'est juste le fait de te poser des questions.
Oui.
Enfin, je crois que, comme tu dis, j'ai commencé à avoir ce décalage à partir du moment où.
Ouais.
Ou juste, je me suis posé des questions et en fait, je me demande ce qui fait que certaines personnes vont se les poser ou pas. Et c'est pour ça que moi, j'essaie un maximum de les partager et de les donner, tu vois.
Ouais.
Bah oui, mais tu vois, moi, j'ai pas eu d'histoire aussi forte que toi, celle que t'as pu avoir.
Pas forcément dans l'histoire. T'es pas obligé de perdre un proche ou t'es pas obligé d'avoir un accident ou une maladie ou un cancer pour prendre cette maturité-là. Mais je pense que tu peux te servir, en fait, de tout ce que t'as vécu dans ton enfance, tu vois, des complexes desquels on parlait tout à l'heure que tu pouvais avoir, etc. Et de t'en servir en fait et de te dire putain mais pourquoi j'étais comme ça à cet âge là et en fait tu fais un travail sur toi-même et tu te crées ta propre maturité en fait, c'est tout.
Ouais, c'est grave ça. Voilà. Enfin, moi je pense qu'il m'a aidé, c'est le travail de déconstruction que ce soit social ou personnel.
Il y a
et
de personnes qui le font.
Ouais, je sais, mais c'est ça que moi j'encourage chacun
à
le faire.
Voilà.
Parce que en plus c'est pas genre tu te poses avec toi-même et tu te dis bon alors venez on déconstruit tout. Non, c'est juste remettre en question pourquoi tu penses ça,
pourquoi j'ai réagi
vouloir
comme ça.
Débattre avec des gens et arriver à avoir son propre avis et pas ceux des autres.
Exactement.
Tu vois.
Bah, aux auditeurs qui nous écoutent, moi ce que j'ai vachement fait par exemple, tu vois, c'est que bah, j'étais très impulsive avant. Je le suis encore un peu aujourd'hui, faut pas trop me chauffer quoi, mais je suis encore un peu impulsive, mais beaucoup moins qu'avant. Et je travaille en ce moment sur ça. Et quand j'ai une réaction en fait impulsive, déjà, j'arrive maintenant à la garder pour moi, mais quand je commence un peu à bouillonner, je prends une feuille, un papier, je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et je me dis, ok, il s'est passé ça m'a saoulé, il y a eu ça. Et en fait, j'arrive, comme tu dis, à déconstruire genre tout ce qui s'est passé dans ma tête, et j'en arrive à la conclusion, meuf, il n'y avait rien, tu t'énerves pour rien, tu vois?
Ouais.
Et c'est comme ça que t'avances.
Ouais.
Si tu ne travailles pas sur toi-même, et que tu te fies encore plus à tout ce que te disent les gens, pardon, t'avances jamais.
Ouais, c'est vrai.
Et tu ne crées pas cette maturité si tu te remets jamais en question.
Mmh.
Moi j'ai une pote, elle est têtue, mais genre elle est bornée.
Mmh.
Elle est bornée. Mais je te jure que du coup, sur certaines situations, elle peut pas être mature. Quand t'es bornée, tu peux pas être mature. Si tu te remets jamais en question, tu peux pas avoir cette maturité pour avancer, tu vois. Voilà.
C'est vrai, alors que franchement, on gagne tous à se remettre en question.
Ouais,
je crois qu'on. Enfin, on apprend tous les jours, les gars. Donc, faut jamais se reposer sur ses acquis, tu vois. Bah franchement moi aussi et après j'ai toujours un peu de toute façon il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis partagée mais après je trouve ça bien parce qu'il y a pas de réponse universelle mais d'un côté j'ai envie de rester fidèle à qui je suis de l'autre j'ai envie de m'améliorer entre guillemets tu vois et donc c'est pour ça que c'est ça mais tu vois parfois on me dit je suis trop extrême c'est le terme qu'ont employé mes parents tu vois dans mes convictions ou mes choix et d'un côté je suis là bah c'est une fierté
par
genre bah ouais
par rapport au féminisme
par exemple ou bah tu vois quand c'était par rapport au sport ou à la bouffe et heureusement par rapport au transport à la bouffe, bah, au final, j'ai pris en compte pas ce qu'ils m'ont dit eux, mais ce que moi, j'ai vu moi-même sur les réseaux et de personnes beaucoup plus bienveillantes, parce qu'on apprend toujours beaucoup plus quand on nous le dit gentiment que quand on nous la scène, tu vois. Et donc, au final, c'est là où je me dis, bah, en fait, je suis très contente d'avoir m'être mise en question là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je trouve l'équilibre. Mais sur d'autres sujets, non, je ne l'ai pas remis en question, parce que, et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est savoir où est-ce que ça s'applique ou pas, mais voilà, sur mes convictions bah, typiques sur le fait de promouvoir l'acceptation de soi, bah non, je vais pas me sacrifier, tu vois, mes convictions pour plaire à x ou y personne.
Ouais.
Mais donc c'est vrai que c'est assez difficile, tu vois, parce que bah, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir.
Ouais, mais c'est souvent sur des sujets sur lesquels les personnes, enfin, des sujets que les personnes n'entendent pas beaucoup. Tu vois, le féminisme dérange aujourd'hui, parce qu'une femme qui ouvre sa gueule, pardon le terme, mais c'est ça, une femme qui ouvre sa gueule, ça dérange. Ça dérange parce que c'est l'homme qui devrait le faire.
Mais attends, est-ce que j'en ai parlé sur ce podcast? Non, j'en ai parlé avec des amis. Tu sais que, je t'avais dit, le Huffington Post, ils ont fait une vidéo sur nous, sur On veut du vrai, sur YouTube. Tu regardes les commentaires sous la vidéo.
Ah ouais?
Mais on regardera après, faut qu'on en fasse quelque chose. Ma sœur jumelle me les a envoyés. Le féminisme, cette maladie de gauche. Après, il y a quoi d'autre? Il y a... Dis donc, elle est pas très finaude celle-là. Décidément, les femmes n'ont rien envié aux hommes. Tant qu'elle monte son fion, moi je m'en fous, elle peut continuer. Enfin, mais
non,
des
mais c'est une blague.
Aberrations. Après, tu dis, oh, t'as raison, j'ai continué à fermer ma gueule. You wish. Ah ouais, c'est assez affligeant.
C'est là, tu vois qu'il y a encore un putain de travail à faire.
Mais après, la limite, enfin, tant mieux. Genre, moi, limite, ça donne du sens à mes journées, tu vois.
Mon frère, c'est un putain de macho qui comprend pas le féminisme. Ouais, féminisme, machin. Je lui dis, vas-y, c'est quoi? Je l'ai mis face à lui-même. Je lui dis, vas-y. On était à table, j'ai dit, ok, vas-y, c'est quoi le féminisme? Vas-y, c'est quoi? Oui, c'est les femmes, machin, qui parlent et tout parce qu'elles ont pas les mêmes droits que les hommes. Je suis alors fou, tu vois. Genre en mode, oui, on a pas les mêmes droits que les hommes, mais on ouvre pas notre gueule que pour ça. Genre, est-ce que t'es une femme déjà? Est-ce que tu sais, est-ce que tu t'es intéressée aux problèmes auxquels on peut faire face? Je lui dis, toi t'es un peu macho, mais ta soeur c'est une grande brûlée. Genre, faut réfléchir quand même, tu vois. Je lui dis, est-ce que tu sais que j'ai déjà fait preuve de discrimination? Genre, vas-y, c'est quoi le féminisme? Et t'es là en mode, oui. Vous vous battez, mais parce que il y a pas d'égalité des salaires. Je fais alors tu trouves ça normal? Genre en mode c'est normal.
Ouais.
Parce que toi t'es un mec et que moi je suis une femme, j'ai pas le droit de toucher le même salaire que toi.
Ouais.
Oui, mais machin. De toute façon les féministes, elles aiment pas les hommes. Je fais mais alors encore faux.
Ouais.
Je fais encore faux. Une vraie féministe, il y en a qui sont dans l'extrême. J'avoue, on peut le dire. Mais une vraie féministe ne déteste pas les hommes.
Carrément.
On veut juste la même chose, tu vois. Ouais. La même fucking chose. Et du coup, quand je vois que mon propre frère, pardon, il est fermé à cette idée-là, alors que sa sœur c'est une grande brûlée et qui devrait être justement un peu plus tolérant.
Grave.
Tu vois? Comment tu veux que genre sur YouTube on prenne pas des commentaires déplacés de gens qu'on connaît pas, tu vois?
Mais tu vois, moi je me dis juste, ces hommes-là, ils ont des femmes, des mères, des sœurs, enfin, parce que comme je suis encore une fois très naïve, je me dis, mais je sais pas, les mecs ils veulent pas. Le même droit pour leur mère que pour leur femme, enfin, genre, je sais pas. Ou alors, pareil, ils vont siffler des meufs dans la rue, mais par contre, ils veulent pas qu'on siffle leur mère, tu vois.
Eh,
les gars, à un moment, c'est la même réalité pour tout le monde, y a pas de. You don't get to pick,
en fait,
tu vois.
En fait, autant pour l'homme que pour la femme, donc la femme qui est, comme on disait tout à l'heure, hein, représentée par une femme qui n'existe pas, une femme parfaite, etc., l'homme est représenté par un homme parfait qui doit mener, qui est chef d'entreprise. Et en fait, les hommes ont autant de pression
carrément
sur eux que nous.
Carrément.
En tant que femmes, tu vois ce que je veux dire? Et le problème vient de là.
Ouais, c'est
si on mettait tout le monde sur un pied d'égalité, déjà en passant par la télé, les marques, etc., par les gens qui nous représentent, ça serait déjà plus facile de parler de féminisme sur des plateformes comme YouTube, comme sur Instagram et à la télé déjà aussi, tu vois.
Non, mais carrément, mais attends, je sais plus ce que c'est l'exemple, mais je regardais Anastasia avec mon mec avant-hier. Tu sais, le Fox, hein, parce que à chaque fois je me prends des toulées quand je dis que c'est un Disney, c'est un Fox. Et en fait, c'est là où tu vois que tout commence dans ce genre de film. C'est que je sais plus quel moment c'était, mais voilà, c'est, tu vas voir qu'à un moment, le mec va avoir une phrase, genre, mais c'était toi l'homme, c'était censé me protéger, tu vois, une connerie de genre, et qui va nous conditionner à croire qu'on a besoin d'être protégé, et l'homme, que c'est lui, le supérieur de la femme, tu vois.
Mais qui vient sauver la Belle au Bois Dormant? C'est ce putain de prince à chaque fois, la petite sirène, tu prends la Blanche-Neige, la petite sirène, enfin tout, il y a toujours ce putain de prince charmant, et on te fait croire depuis gamin que bah, les filles c'est des princesses, qu'elles jouent pas au football, qu'elles tiennent pas des épées, que machin, et que le prince charmant il va venir les chercher sur son petit cheval. Non mais arrêtez tout. Arrêtez, genre.
Faut changer les Disney en fait, hein, parce que j'ai adoré, tu vois, mais.
Les derniers.
Ouais, les derniers,
genre Vaiana, tu vois, par exemple, bah, c'est cette nana là qui part à l'aventure et tout. Bon, il y a quand même un homme qui l'aide dans l'histoire, tu vois, mais elle est un peu badass quand même. Genre, c'est cool.
Ouais, ouais,
je me
suis
dit, vas-y, ça a changé. Rebelle et tout. Genre, ça, tu
c'est
vois,
vrai,
on y est.
T'as
là,
raison.
C'est cool.
On y est, ouais.
Ça commence un peu à changer.
Et puis, bon, il y avait Mulan aussi, je me suis rappelé.
Mulan, ça race, tu vois, mais genre, Mulan, c'est la princesse de ouf que tout le monde veut être. Mais tu vois, Vaiana. C'est donc princesse, je crois, Tahiti, Maori, ouais, je sais plus. Mais tu vois, un peu plus forte, les chevilles un peu plus rondes et tout, le visage rond, on n'est pas sur Cendrillon, tu vois. Ouais. Ça, on y arrive, on fait un peu de trucs. Non, Disney, ils ont compris. Disney, ils ont compris, mais ça part dès l'enfance, tu vois.
Ouais, c'est ça, faut que ce soit dans les livres, les films et tout, quoi.
C'est ça.
Bon, vu que ça fait une heure et qu'on a encore du pain sur la planche, ouais, je vais te poser... Allez, deux dernières questions.
Vas-y.
Une, c'est, je me suis juste demandé, est-ce que, bah, après ton accident, tu t'es dit, genre, que tu voulais faire une liste des choses que tu voulais accomplir dans ta vie ?
Ouais, mais je l'ai dans la tête. Je l'ai jamais écrite.
Ok.
Ouais,
mais donc, t'as toujours un peu ce truc que t'as envie de faire dans ta vie ?
En fait, c'est pas... Après mon accident, je me suis fait... Mais en fait, c'était quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit, ok, genre, là, si tu sors de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais c'est des trucs à la con, genre, c'est voler en montgolfière... passer ma PAC pour sauter en parachute seul, c'est faire le tour du monde, enfin tu vois, c'est des listes comme ça, mais c'est des trucs qui me maintiennent en fait depuis toujours.
Ouais.
Je sais pas, c'est des trucs à la con, c'est genre apprendre le surf, refaire du roller, tu vois, et c'est des trucs que j'ai fait quand, enfin, dans ma tête en fait, quand j'avais 16 ans, et je me suis dit, je ne quitterai pas ce putain de monde sans l'avoir fait, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Ok, c'est cool, très inspirant. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast.
Ouais.
Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
J'ai juste envie de te répondre un mot. Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est s'écouter. Voilà. C'est pas laisser les autres influencer ce que tu veux faire de ta vie. Prendre le pouvoir de ta vie, c'est juste t'écouter. Et c'est tout. Je finirai là-dessus.
Trop cool. Bon, voilà. Bah, merci Julie, c'était génial. Putain, mais le temps passe.
Trop
rapidement, genre.
J'avais tellement de trucs à dire.
Mais grave.
Du coup, là, j'ai envie qu'on aille boire un café.
Mais ouais, c'est quoi ? Pause, on revient. De toute façon, on va continuer et bien, on fera un épisode 2. Bon, bah, du coup, au cas où vous ne l'avez pas compris, vous pouvez retrouver Julie sur ses réseaux, @12février, sur Insta, sur YouTube. Bon, le compte, on veut du vrai aussi. Et en tous les cas, si vous me suivez en vrai, vous connaissez déjà Julie.
C'est ça, l'inverse en vrai. Si vous me suivez.
C'est clair. Attendez, maintenant, vous le connaissez. Bon, bah écoute, merci beaucoup Julie.
Yes, merci.
On se dit à très bientôt.
C'était trop cool.
Et stay tuned parce qu'on a aussi une vidéo ensemble sur YouTube qui sort très vite.
Carrément.
Voilà.
Gros bisous.
Gros bisous.
Merci de s'être joint à nous dans cette conversation avec Julie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Instagram où on est toutes les deux très présentes, en post ou en story, en nous taguant @12février et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et vous remercier du fond du cœur. Merci encore de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous mardi prochain 7h pour le tout nouvel épisode d'InPower.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.